Chapitre 28. À Ildakar, Nietzsche travaillait nuit et jour à rassembler les défenseurs, à les armer et à les préparer pour l'attaque surprise. Maintenant que le Douma s'était décidé, il ne fallait plus traîner. Depuis l'assaut vicieux des jumelles, la ville n'avait plus entendu parler d'Outros. Pas d'ultimatum ni d'exigence. Très probablement, le général peaufinait un plan, mais avec un peu de chance, les défenseurs le prendraient par surprise et retourneraient la situation à leur avantage. Même quand elle s'autorisait à dormir, Nietzsche glanait des informations grâce à son lien avec Mra. Ne faisant plus qu'une avec la panthère, elle se faufilait dans les ombres et observait le camp ennemi. Dès que c'était possible, l'intrépide panthère évoluait parmi les soldats. Avec son cerveau de fauve, elle ne comprenait pas ce qu'elle voyait, mais Nietzsche, elle, avait les perceptions et l'expérience d'une humaine. Du coup, elle recensait les forces et les faiblesses des troupes d'Outros, un avantage qui pourrait se révéler décisif dans les jours à venir. Grâce aux sens animaux de sa sœur Féline, elle avait établi que les antiques guerriers n'étaient pas tout à fait redevenus humains. L'odeur ne collait pas et les corps étaient beaucoup moins chauds que d'habitude, comme si le sang dans leurs veines manquait de fluidité. Un matin, Nietzsche fit devant les membres du Douma un compte-rendu détaillé de ce qu'elle avait vu grâce aux bons offices de Mra. Lancé sur une piste qu'il affirmait des plus intéressantes, Nathan n'était pas là. Durant la réunion, Olgia annonça une excellente nouvelle.
« Ma guilde a produit assez de tissus spécial pour confectionner des manteaux aux 20 nobles détenteurs du don qui conduiront l'assaut dans quelques nuits. Nos vers à soie ont fait le maximum, quitte à mourir d'épuisement. Des sorciers de chair les ont jadis optimisés, mais ils ne peuvent donner plus. »
Et les préparatifs, pensa Nietzsche, ne devaient pas durer indéfiniment.
« Outros ne tardera pas à attaquer, » dit-elle. « Il faut frapper avant lui, sinon adieu l'avantage de la surprise. » « Pour une offensive de cette envergure, » rappela Damon, « on ne peut pas improviser. Nos combattants s'entraînent et la distribution des armes continue. Au minimum, il nous faut 3 jours avant d'être prêts. J'ai bien dit, au minimum. »«
J'ai fait poster des sentinelles à toutes les portes, » annonça Quentin, « y compris la poterne des bergers. Des sorts de garde ajoutent aussi à la sécurité. De ce côté-là, il n'y a pas de danger. »
« Moi, ce qui m'inquiète, » intervint Auron, « ce sont les anciens esclaves assoiffés de sang noble, ceux qui rêvaient de brûler la ville la nuit des émeutes. Même si Rendel est désormais des nôtres, sommes-nous sûrs que tous ses partisans le suivent? Qui peut empêcher un traître de se glisser dehors pour vendre des informations cruciales à l'ennemi ?»
Indigné, Rendel se leva de son siège.
« Comme vous, nous avons juré de défendre Ildakar. Les esclaves luttent pour la justice, mais ils voient bien que leur avenir est ici, avec vous. Je crois les avoir tous convaincus. Une fois reconstruite, la cité sera en partie à eux. Quel imbécile songerait à trahir dans ces conditions ?»
Nietzsche plissa le front.
« Je respecte ta foi en l'humanité, Rendel. Mais tout le monde n'est pas aussi altruiste que toi. Rien de ce que nous préparons ne doit arriver aux oreilles d'Outros. Notre principal allié, » rappela Lani, « c'est la surprise. » « Si nous la perdons, »
elle soupira.
« Au moins le plan est clair, lancer toutes nos forces dans cet assaut et faire le plus de dégâts possible. Si Outros nous croit assez fort pour le vaincre, il lâchera l'affaire. »
Les autres conseillers assurèrent que tout se passerait à merveille. Plus réaliste, Nietzsche espéra simplement qu'il ne se trompait pas. Dans la villa en ruine du sorcier de chair André, Nathan avançait à pas mesurés. Dans l'air, il sentait les vestiges d'une magie puissante. Alors que les colonnes s'étaient écroulées, entraînant dans leur chute les murs et le plafond, les deux Xax restaient debout, bien que couverts de poussière. La structure entière s'était effondrée sur eux et ils n'avaient subi aucun dommage. Si le troisième super-guerrier avait péri face à Nathan, les deux autres se dressaient toujours au même endroit, comme depuis 15 siècles. Immobilisés par un sort, certes, mais parfaitement conscients. Quand il fut assez près des deux titans, Nathan leva sur eux des yeux où se mêlaient l'effroi et l'émerveillement. Avant qu'ils le neutralisent, leurs camarades avaient fait des ravages, ce qui n'avait rien de rassurant. Pourtant, le vieux sorcier s'autorisa une brève poussée d'espoir. Avec des combattants pareils. Quelque part sous les décombres, une grande tache rouge devait avoir fini de sécher. Tout ce qui restait d'André, réduit en bouillie par sa créature, un sort mérité après le calvaire qu'il avait infligé aux Xax. Tous les serviteurs et les apprentis d'André ayant fichu le camp pendant les émeutes, personne n'était venu nettoyer ce chandruine. Du bout d'une botte, Nathan délogea une pierre de sa position et découvrit dessous un fragment de crâne auquel s'attachaient encore des cheveux empoissés de sang.
« Par les esprits du bien !»
Oui, André méritait son sort, mais quand même. L'Ixax, revenu à la vie, avait aisément percé les défenses magiques du sorcier. Un exploit impressionnant en soi. 1500 ans plus tôt, André avait créé les Trois Titans pour défendre Ildakar. Mais la cité n'avait jamais eu besoin d'eux. Mort d'ennui, le sorcier de chair avait passé le temps en tourmentant les Titans. Du coup, celui qui s'était réveillé avait fait un carnage. Si Nathan était fier de l'avoir vaincu, il ne s'en réjouissait pas plus que ça. Toute cette affaire était regrettable. À cette heure, l'entière cité se préparait à lancer une attaque surprise. Avec cette décision, le Douma avait rendu l'espoir aux habitants et c'était une bonne chose. Cela dit, en termes purement militaires, cet espoir ne reposait sur rien. Même si les défenseurs parvenaient à lui infliger de gros dommages, rien ne garantissait que le général Outros mordrait à l'hameçon. Stratège de génie, il risquait même de trouver un moyen de surprendre à son tour ses adversaires. Avec tout ce qu'il avait lu dans les livres d'histoire, Nathan n'était pas enclin à sous-estimer le général. Pour améliorer les chances d'Ildakar, le vieil homme cherchait une arme qui prendrait au dépourvu l'armée ennemie. Les Xax? Eh bien, ils faisaient de bons candidats, à condition qu'on puisse les contrôler. Enjambant une colonne écroulée, Nathan avança encore. S'il ne pouvait pas parler, les Xax entendaient parfaitement. Encore remué par son affrontement avec le titan éveillé qui avait bien failli avoir sa peau, Nathan étudia en silence ses deux frères. En tunique blanche de sorcier, avec sa crinière couleur neige, il devait en imposer, l'image même d'un chef. Mobilisant son courage, il se racla la gorge et trouva que ça faisait un incroyable boucan dans cette atmosphère confinée.
« Bonjour. »
Une entrée en matière particulièrement stupide, mais bon.
« Je me nomme Nathan Rall, sorcier de mon état, mais pas Ildakar. J'y suis en visite et je viens de très loin. »
Les Xax ne bronchèrent pas. Comment l'auraient-ils pu avec le sort qui les paralysait? Casqués, ils arboraient sur leur plastron le soleil et l'éclair, symbole d'Ildakar. Sur leurs énormes bras nus, la peau faisait penser à du ciment. À chaque main, ils portaient des gantelets de fer hérissés de piques à la pointe acérée. À leur hanche, une épée aussi haute qu'un homme attendait depuis des lustres d'être dégainée. Également nus, leurs jambes faisaient penser à des troncs d'arbres et leurs pieds bottés devaient pouvoir écraser des rochers. Derrière la fente de leur casque intégral, leurs gros yeux crépitaient de magie. Sans le moindre sens de l'éthique, André avait recruté 3 banals fantassins loyaux à Ildakar pour les transformer en... Eh bien, trouver le bon mot n'était pas simple.
« Je suis désolé qu'on vous ait fait tant de mal, » dit Nathan.
Les Xax l'entendaient sûrement, mais l'écouterait-il?
« Je sais que vous ne vous attendiez pas à un destin pareil quand vous vous êtes porté volontaire, mais Ildakar a besoin de vous aujourd'hui. »
Le silence retomba, écrasant. Tendant l'oreille, Nathan ne capta même pas la respiration des titans, à supposer qu'ils respiraient. Pourtant, il y eut un changement. Sous leur casque, leurs yeux jaunes bougèrent très légèrement, comme s'ils cessaient de regarder dans le vide. Un frisson glacé courut le long de l'échine de l'ancien prophète. À l'évidence, les Xax avaient conscience de sa présence et ils rivaient les yeux sur lui.
« C'est André qui vous a maltraité, et il a payé pour cette infamie. Si je ne me trompe pas, vous devez avoir assisté à la scène. »
La nuit des émeutes lancées par le faux rebelle Masque Miroir, un seul Xax avait été réveillé. Fou de rage, il avait tué André, dévasté la villa, puis semé la terreur dans Ildakar. Si Nathan n'avait pas été là pour l'arrêter, il aurait continué indéfiniment.
« Votre vocation est de défendre Ildakar, »
dit-il aux deux Xax intacts.
« Je sais que c'était votre volonté, jadis. Vous étiez de vrais braves, et aujourd'hui la ville est de nouveau en danger. » C'est le général Outros, comme à l'époque. Votre cité a encore besoin de vous. Alors oubliez qu'elle vous a fait du mal, non pas elle en réalité, mais quelques sales types.
Les yeux des titans brillaient à présent de rage et de folie. Une réaction normale qui ne découragea pas Nathan. Depuis quand ne s'était-on plus adressé à eux avec gentillesse et compassion?
Entre nous, je comprends ce que vous ressentez. Pendant 1000 ans, on m'a privé de liberté. Parce qu'elles avaient peur de moi, tout comme les gens ici ont peur de vous, les sœurs de la lumière m'ont enfermé dans le palais des prophètes. J'en étais un de prophète, et les prédictions peuvent être très dangereuses.
Plus détendu, Nathan entreprit de faire les 100 pas devant son auditoire. Posant une main sur sa cicatrice, il sentit battre le cœur d'Ivan et capta la présence du don, puissant et fiable comme jamais. Quand il était adolescent, une éternité plus tôt, l'éveil du don lui avait valu de terribles cauchemars, et son talent de prophète n'avait pas arrangé les choses. Bien sûr, pour un râle, posséder le pouvoir n'avait rien d'une surprise, mais il n'en avait pas moins été désemparé. Un jour, les sœurs de la lumière l'avaient déniché, comme presque tous les jeunes détenteurs du don. Dévasté par des migraines terribles, l'esprit en pleine confusion, il crevait de peur chaque fois qu'une prophétie naissait dans son esprit, incompréhensible et glaçante. Convaincu par les promesses des sœurs, des mensonges pour l'essentiel, il les avait accompagnées, acceptant ensuite de porter un radahan. Grâce à ce collier de fer, les sœurs le contrôlaient, comme elles disaient. Comparé à 15 siècles d'incarcération dans un corps géant, la conscience en permanence éveillée, le sort de Nathan ne paraissait plus si grave que ça. Cela dit, son expérience l'aidait à comprendre les zigzags.
« Je reviendrai vous parler. Votre sacrifice n'a pas été vain, et nous aurons peut-être besoin de vous. En tout cas, Ildakar ne vous a pas oublié, veuillez me croire. »
Passant une main sur son front, Nathan découvrit qu'il ruisselait de sueur.
« Oui, nous avons besoin de vous, plus que jamais. »
Le vieux sorcier se tut un long moment. Avec de la patience, il réussirait peut-être à toucher le cœur de ces hommes. Lorsqu'ils se retrouvèrent devant l'ancienne villa de Thora, Nietzsche vit au premier coup d'œil que Rendel était hors de lui et profondément perturbé.
« Suis-moi, magicienne, »
dit-il en s'engageant dans une rue qui menait au pied du plateau.
« Les autres membres du Douma seront bientôt au courant, mais à nous deux on évitera peut-être un bain de sang. Par la barbe du gardien, ça n'aurait jamais dû arriver !»
Nietzsche suivit l'ancien esclave jusqu'au quartier des Dacha, ces maisons de tolérance où les riches venaient s'encanailler. Depuis la nuit de fureur, durant laquelle plusieurs yaksens de soie avaient tué leurs clients trop violents, ces lieux étaient beaucoup moins fréquentés. En chemin, dans des encadrements de portes, Nietzsche vit nombre de visages terrifiés. Pour l'essentiel, des esclaves pauvrement vêtus qui refusaient de retourner au travail. Beaucoup d'entre eux avaient réquisitionné de somptueuses villas et des résidences secondaires, en chassant les nobles parce qu'ils n'avaient plus autant de pouvoir qu'avant. Même si Rendel ne s'était pas encore ouvert à elle, Nietzsche sentit grandir son malaise. Que venait-elle faire ici? L'air sinistre, le nouveau membre du Douma se tourna vers sa compagne.
« Tu t'es battue pour les esclaves, magicienne. La nuit de la révolte, quand Masque Miroir nous a trahis, tu ne t'es pas détournée de nous. Sans toi, nous n'aurions jamais gagné la liberté, alors j'espère que ces fous nous écouteront et mettront un terme à cette boucherie. Ensemble, nous avons une chance. »
Rendel s'arrêta devant un superbe bâtiment à colonnades. Une des plus luxueuses d'achat d'Ildakar, avait entendu dire Nietzsche. En manteau gris ou marron, une 20aine de personnes se tenaient devant la demeure, non loin d'une pique qui exhibait la tête d'un homme. Les yeux déjà voilés, le mort portait une barbe frisée impeccablement taillée et des cheveux coiffés avec une précision millimétrique, mais souillés de sang, ce qui gâchait considérablement l'effet. Au bout d'une corde, son corps pendait par les pieds à un portique. Sur le marbre blanc, écrit avec le sang du mort, 4 mots scintillaient.
« C'est notre tour !»
L'estomac noué, Nietzsche serra les dents de rage.
Il faut arrêter ça,
lança Rendel à la petite assemblée.
Sinon, nous aurons tout Ildakar contre nous.
Qui est le mort?
Demanda Nietzsche.
Le seigneur Obur. Ce matin, j'ai reçu un message annonçant que justice était faite, un monstre ayant eu ce qu'il méritait.
Rendel secoua la tête, accablé.
Je ne veux pas de choses pareilles. C'est le meilleur moyen de tout aggraver.
Dans l'assistance, Nietzsche repéra cinq superbes jeunes femmes vêtues de soie sous leurs manteaux. Impassibles, ces pensionnaires de la Dacha regardaient le cadavre comme si elles en voyaient tous les jours.
« Le seigneur Aubur était propriétaire de trois Dachas, » dit Rendel. « On raconte qu'il ne traitait pas bien les Yaksen de soie, mais pas plus mal que ses collègues. »
Nietzsche étudia les femmes et ne vit aucune tache de sang sur leurs vêtements ou sur leur peau.
« Ce sont elles qui l'ont tué ?»«
J'en doute fort, mais elles seront accusées. Aucune n'aurait pu rédiger le message que j'ai reçu. Pour la plupart, elles ne savent ni lire ni écrire. »
Nietzsche sentit le sang bouillir dans ses veines. Pour elle, Aubur était un illustre inconnu et elle se fichait du sort des tenanciers de bordel. Mais dans une société traversée de tensions, la violence, elle le savait, n'arrangeait jamais les choses. Au contraire, c'était le meilleur moyen de provoquer une catastrophe.
« Rendel, Ildakar mettra du temps à guérir de ses blessures. Si les esclaves continuent à tuer les gens avec qui ils devraient se réconcilier, l'harmonie ne reviendra jamais.
« Je sais. » Pourtant, ma nomination au Douma montre que nous avons fait des progrès. Hélas, c'est le 10e noble décapité depuis la nuit des émeutes. Parmi les esclaves et les miséreux, certains rêvent encore de tuer les possédants afin de purifier la ville.
Alors que les autres badauds s'éparpillaient, les Yaksen de soie continuèrent à fixer la tête du seigneur Aubur.
« Si vous tuez tous les détenteurs du don, »
maugréa Nietzsche,
« qui vous aidera à combattre Outros ?»« Rendel. » Les gens n'ont-ils donc jamais jeté un coup d'œil dans la plaine? Le Douma a programmé une attaque surprise. Si les anciens esclaves ont envie d'en découdre, dis-leur de s'en prendre à notre véritable ennemi.
Nietzsche, aide-moi à leur ouvrir les yeux. Cette fameuse nuit, ils criaient tous ton nom. Ils savent que tu ne les abandonneras pas, contrairement à Masque Miroir. Toi, ils t'écouteront.
Combien de fois devrais-je répéter que ce n'est pas ma ville? Le salut d'Ildakar doit venir de ses habitants.
Rendel détourna les yeux de la tête sanglante et du corps mutilé d'Aubur.
« Oui, mais un peu d'aide ne nous fera pas de mal. Viens avec moi, magicienne. Je sais comment nous pouvons répandre la bonne parole. »
Quittant la scène de crime, Rendel et Nietzsche gagnèrent le marché aux esclaves, un endroit que la magicienne abominait après avoir vu des nobles tout sourire, enchérir pour se fournir en viande sur pattes. La place était désormais annexée par des centaines d'esclaves qui refusaient de retourner dans leur taudis tout en bas de la ville. Ici, des familles réunies et des amis de fraîche date se reconstruisaient une vie. Dès qu'ils reconnurent Rendel et Nietzsche, ces gens applaudirent, mais le récent membre du Douma leva un bras pour demander le silence. Très vite, les hommes et les femmes réunis autour de feux improvisés se turent pour écouter leurs représentants.
« Vous croyez être libre ?»
lâcha Rendel, amer.
« Mais loin d'avoir gagné, vous êtes en train de saboter toutes nos chances. Parmi vous, certains pointent un couteau sur leur propre gorge. Ce soir, un autre noble a été tué. »«
Nous sommes libres !»
cria un type en tablier de boucher. Nietzsche le reconnut. La nuit de la révolte, après le combat contre les loups à pic, cet homme et son compagnon lui avaient fièrement présenté quatre têtes de nobles tuées par leurs soins.
« Non !»
répliqua la magicienne.
« Vous n'avez pas gagné votre liberté. Elle a un prix, souvent en sang versé, mais pas seulement. Ce massacre ne vous mènera à rien. »
Les insurgés s'indignèrent. De la part de leur héros, ils attendaient des félicitations, pas des critiques acerbes. Rendel foudroya la foule du regard.
« Vous savez tous que j'ai été nommé au Douma. Bientôt, il y aura d'autres représentants des gens modestes. Des ouvriers, des artisans, d'autres anciens esclaves. La clé de la démocratie, c'est la représentation de tous. »
« Peut-être, mais avant nous devons vider l'abcès !»
dit l'homme au tablier de boucher.
« Vous savez tout ce qu'on nous a infligé. Justice doit être faite !»«
Avant tout, il faut que revienne la paix civile !»
intervint Rendel.
« Mais plusieurs nobles ont été assassinés !»«
Non, exécutés !»
cria le type.
« Pour les crimes commis contre nous !»«
Selon la sentence de quel tribunal ?»
demanda Nietzsche.
« Vous abominiez les abus de pouvoir des nobles ?» Voulez-vous les imiter aujourd'hui? Ildakar est assiégé et nous devons combattre un antique ennemi. Tous les nobles, tous les négociants et tous les anciens esclaves seront utiles dans ce conflit. Si la ville se déchire de l'intérieur, elle sera détruite.
Le seigneur Aubur méritait son sort. Nous savons tous ce qu'il a fait aux Yaksen de soie.
Nietzsche et Rendel n'ayant pas cité le nom de la victime, il devint évident que l'homme au tablier de boucher avait trempé dans l'affaire. La magicienne avança vers lui.
Ce nouveau crime risque d'être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sais-tu le mal que nous avons eu à faire entrer Rendel au conseil? Toi et tes semblables, vous allez ruiner tous nos efforts. Seriez-vous des imbéciles?
Dans l'assistance, bien des gens baissèrent les yeux. Encore à demi pétrifié, Timothy sortit des rangs.
Nous sommes encore loin d'avoir rendu coup pour coup,
dit-il.
Nietzsche, je pensais que tu serais de notre côté, celui de la justice.
La magicienne se tourna vers le jeune berger.
Chaque victime a sa façon de voir la justice, mon ami. Vos attaques donnent l'impression aux nobles qu'on les frappe injustement et ils risquent de se venger.
D'un geste, Nietzsche balaya le village pour l'essentiel composé de biens volés.
Pour convaincre les membres du Douma les plus radicaux de vous épargner, je devrais mobiliser tous mes talents de diplomate. Pour venger Aubur, la garde peut très bien encercler cette place puis tout incendier.
La magicienne chercha le regard du type si fier des récents massacres.
Tout ça parce que certains sont trop avides de revanche.
La vengeance est le sel de la vie. Chaque chose en son temps.
N'est-ce pas de justice que tu parlais plus tôt? Cette valeur-là repose sur l'équilibre et l'équité. Vous prenant pour ses juges, vous avez condamné et exécuté Aubur. Pour le venger, les nobles voudront vos têtes. C'est un cercle vicieux et ça ne s'arrêtera jamais.
Non, c'est un pas dans la bonne direction.
L'homme croisa les bras, refusant de céder un pouce de terrain.
Magicienne, après t'avoir entendu nous haranguer lors du combat contre Thora, je pensais que tu te dresserais contre le mal.
Le mal peut porter bien des masques, y compris celui de la vengeance. Le défi, c'est d'arrêter ce mouvement infernal. Le seigneur Aubur, c'est toi qui l'as tué, tu le sais, et tout le monde l'a compris.
Nietzsche avança encore.
L'équilibre, c'est comme ça que je le rétablis, dit-elle. Après, je dirai aux membres du Douma que justice est faite et qu'il n'y a plus besoin de vengeance.
Amplifiée par la magie, la voix de Nietzsche retentit aux quatre coins de la place.
Mais tout doit s'arrêter aujourd'hui. Plus de nobles tués, c'est compris?
Le type en tablier de boucher ricana.
J'irai parler aux conseillers pour qu'ils comprennent ma façon de penser.
À l'évidence, ils n'avaient pas conscience d'être en danger.
Ils comprendront et je...
D'une simple pensée, avec le soutien de son don, Nietzsche arrêta le cœur de l'homme. Les yeux exorbités, il tituba puis s'abattit comme un yaksen foudroyé par un de ses collègues bouchers. Insensible au murmure de la foule, Nietzsche se tourna vers Rendel qui hocha lentement la tête.
« Mes amis, dit-il, je vous parle en tant que membre du Douma. Nous ne pouvons plus défendre des intérêts particuliers. Si nous voulons l'égalité, il faut en faire bénéficier tout le monde. Et la liberté, sachez-le, a un prix. Pour avoir notre part d'Ildakar, nous devons en faire partie. »
Dans le silence qui suivit, Nietzsche finit par prendre la parole.
En d'autres termes, vous devez vous battre pour la ville. Quand nous attaquerons, nous aurons besoin de tous les combattants potentiels. Si vous êtes des nôtres, nous vous donnerons des armes et nous vous formerons, tant qu'à faire couler le sang pour la liberté, autant que ce soit le bon.
Effrayés, les anciens esclaves ne réagirent pas.
Quand les membres du Douma apprendront l'assassinat du seigneur Aubur, Rendel et moi leur dirons que l'affaire est réglée.
Nietzsche balaya l'assistance du regard et vit que ces mots n'étaient pas tombés dans l'oreille d'une bande de sourds.
« Parfait. Donc, comme je le disais, l'affaire est réglée.